VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 24 avril 2019. Nathalie Barge et Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres.
Au Tchad, arrestation d'un leader de la société civile ayant appelé à protester contre la pénurie de gaz.
Au Soudan, les militaires ont invité à une réunion les leaders de la contestation qui promettent une marche d'un million de personnes.
Libération de 40 militants indépendantistes du Cabinda en Angola.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu dans l'est du pays où des pluies torrentielles ont fait plus de 50 morts.
Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports.
Dans le nord du Burkina Faso, 4 passagers d'un car ont été tués mardi par des hommes armés circulant en moto. Selon les autorités locales d'Arbinda, un car a été intercepté dans le village de Liki par un groupe d'individus armés qui a abattu 4 passagers après avoir procédé à un contrôle d'identité. Les autres personnes ont été relâchées.
En Centrafrique, des membres du FDPC ont attaqué lundi le village de Lokoti dans l'ouest du pays, où ils ont incendié des véhicules et pris en otage 11 personnes, a indiqué aujourd'hui la gendarmerie de Bouar, précisant que les autres villageois ont pris la fuite. Les casques bleus sont dans une phase d'action et de recherche dans la zone, a annoncé à la presse ce mercredi le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero.
Au Tchad, le porte-parole du collectif contre la vie chère a été arrêté pour avoir maintenu son appel à manifester contre la pénurie de gaz malgré l'interdiction du gouvernement. Yacouba Ouedraogo.
Paul Manga, porte-parole de la police, a confirmé l'arrestation de Digim Nayal Nelly Versinis, détenu dans les locaux des renseignements généraux. Le porte-parole du collectif contre la vie chère a maintenu hier son appel à manifester jeudi pour protester contre la pénurie de gaz qui affecte le pays depuis plus de 2 mois. Lundi, le gouvernement a interdit cette marche. Depuis fin janvier, la raffinerie de Diarmaya, seule source d'approvisionnement en gaz du pays, tourne au ralenti. En cause, la révision des machines de la centrale qui détient le monopole du gaz dans le pays. Cependant, une source proche du ministère de l'Économie met en cause un bras de fer entre le gouvernement et la société chinoise, actionnaire de la raffinerie pour la renégociation du contrat. China Petroleum Corporation détient 60% des parts de la raffinerie, le reste appartenant à l'État. Pour parer à la situation, le gouvernement avait autorisé l'importation de gaz du Nigeria ou du Cameroun, mais les besoins d'énergie de la population ne sont toujours pas satisfaits.
En RDC, la députée Jeanine Mabunda, proche de l'ancien président Joseph Kabila, a été élue présidente de l'Assemblée nationale. Candidate unique à ce poste après la mise à l'écart de la candidature de son challenger Henri Thomas Lokondo, l'ancienne ministre du portefeuille a recueilli 375 voix sur les 383 votants. Le poste de premier vice-président revient à Jean-Marc Kabound de la coalition CAP pour le changement. L'élection s'est déroulée sans les députés de l'opposition qui l'ont boycotté, accusant la majorité parlementaire de violation de la Constitution.
Au Cameroun, 23 militants du parti de Maurice Kamto ont été transférés de la prison de Koudnengui au groupement spécial des opérations de la police. Hier, ils avaient refusé de se rendre au tribunal suite au refus des responsables de la prison de les laisser porter des maillots estampillés Cannes 2019, a indiqué sur les réseaux sociaux le porte-parole du MRC Olivier Bibou Nissak. Il voulait dénoncer les soupçons de malversations financières liées aux travaux d'infrastructure.
Le chef historique du Front islamique du Salut, Abassi Madani, est décédé à 88 ans ce mercredi à Doha, où il vivait en exil depuis 2003, a annoncé le cofondateur du FIS, Ali Berrage. Madani avait appelé à la lutte armée après l'interruption en 92 par l'armée algérienne du processus électoral face à la victoire annoncée du FIS aux premières législatives multipartites, ce qui a plongé l'Algérie dans une décennie de guerre civile ayant fait 200 000 morts. Madani voulait être enterré en Algérie.
Le Conseil militaire de transition au Soudan a annoncé avoir invité à une réunion ce mercredi les leaders de la contestation qui réclament un transfert du pouvoir à une autorité civile. Et Kabadou nous en dit plus.
Nous sommes prêts à discuter avec le chef du conseil militaire et je pense que le problème peut être résolu par le dialogue, a déclaré Omar Eldiguer lors d'une conférence de presse. Ce responsable de l'opposition a déclaré que les leaders du mouvement de contestation sont prêts à parler directement avec le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan. Ils avaient annoncé dimanche la suspension des discussions avec les militaires et appelé à intensifier les manifestations. Mercredi, ils ont brandi la menace d'une grève générale et appelé à une marche d'1 million de personnes pour demain jeudi, afin de réclamer un transfert rapide du pouvoir à une administration civile. Des chefs d'État africains réunis en sommet hier au Caire ont appelé à une transition pacifique et démocratique d'ici 3 mois au Soudan. La responsable du département d'État américain chargée de l'Afrique de l'Est, Makila James, en visite à Khartoum, a dit soutenir la demande légitime du peuple soudanais qui réclame un gouvernement dirigé par des civils.
40 militants indépendantistes de l'enclave angolaise du Cabinda ont été libérés après plus de 2 mois de détention. 40 des 51 militants ont été acquittés et mis en liberté. Tous ont été arrêtés à cause d'une manifestation, a annoncé leur avocat Arao Tempo, s'interrogeant sur le maintien des 11 autres en détention. Ces militants avaient été interpellés fin janvier en amont d'une manifestation qui devait commémorer le 1er février le traité sur l'autonomie du Cabinda conclu il y a 134 ans selon le mouvement indépendantiste. Une vingtaine d'entre eux avaient été libérés en février.
En Afrique du Sud, des pluies torrentielles et des glissements de terrain ont fait au moins 51 morts et plus d'un millier de déplacés. Le président Cyril Ramaphosa s'est rendu sur place. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Fortes pluies, éboulements et affaissements de terrain ont endeuillé les provinces du KwaZulu-Natal et du Cap Oriental. De retour d'Égypte, Cyril Ramaphosa a constaté les dégâts à Amanzimtoti, une localité côtière à une vingtaine de kilomètres au sud de Durban. Le président sud-africain a confirmé que plus d'un millier de personnes ont été déplacées suite aux effondrements de leurs habitations. Le chef de l'État s'est dit inquiet que les pluies se poursuivent dans le Free State, la province du centre, et il a assuré que des moyens vont être mobilisés pour aider les victimes. Le bilan de ces intempéries pourrait encore s'alourdir, a mis en garde le ministre des Affaires traditionnelles, ajoutant que c'était désormais une course contre la montre pour sauver ceux qui sont portés disparus. La pluie a continué de tomber aujourd'hui dans plusieurs régions, ce qui a compliqué les opérations de secours et de nettoyage.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Kim Jong-un est à Vladivostok en Russie pour son premier sommet avec Vladimir Poutine. Pyongyang cherche des appuis en pleine impasse diplomatique avec Washington sur le nucléaire. John Lyndon.
Sa rencontre prévue jeudi avec le dirigeant russe sera pour M. Kim Jong-un sa première entrevue avec un chef d'État étranger depuis son retour de Hanoï après un fiasco diplomatique avec le président Donald Trump. Le train vert olive du dirigeant nord-coréen est arrivé après 8 heures GMT à Vladivostok. À l'issue d'une brève cérémonie militaire, il est parti dans une limousine noire. « J'espère que cette visite sera couronnée de succès », a déclaré Kim Jong-un. Dans ses propos à la télévision russe lors d'un arrêt dans la ville frontalière de Kassan, M. Kim a assuré vouloir évoquer de manière concrète le règlement de la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne. Selon des experts, M. Kim vient chercher un soutien et un certain rééquilibrage entre Pékin et Moscou, son ancien allié de la guerre froide. Pour la Russie, il s'agit de se faire une place dans la grande offensive de charme lancée l'an dernier par Kim Jong-un, qui a été invité plusieurs fois en Russie, sans succès.
Le président américain Donald Trump a annoncé l'envoi de soldats armés à la frontière après un incident avec des militaires mexicains qu'il a accusé d'être potentiellement complice des trafiquants de drogue. Des soldats mexicains ont récemment braqué avec leurs armes des soldats de notre garde nationale. Nous dépêchons immédiatement des soldats armés à la frontière, a tweeté M. Trump.
Toujours aux États-Unis, un suprématiste blanc doit être exécuté ce soir au Texas pour avoir tué un noir il y a 20 ans lors d'une séance de torture qui avait révulsé l'Amérique, sauf si la Cour suprême lui accorde un sursis à la dernière minute. John King, âgé de 44 ans, doit subir une injection létale à 0 heure GMT.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
C'est Nanit Talani qui nous présente la Minute Éco.
Les Nations Unies veulent accompagner la mobilisation de 50 milliards de dollars pour revitaliser le lac Tchad atteint par une sévère crise de sécheresse. Ce lac qui borde le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun a perdu au cours des dernières années 90% de sa surface, menaçant ainsi plus de 30 millions de personnes. Le dessèchement du lac Tchad est aussi l'une des raisons de la résurgence du terrorisme dans la région, selon les autorités. Les groupes tels que l'État islamique en Afrique de l'Ouest ou Boko Haram y ont établi leur fief. Les acteurs du secteur horticole en Tanzanie envisagent de pénétrer le marché chinois de l'avocat. Ce penchant s'explique par la récente croissance des importations de la Chine. En 2017, ce pays a importé près de 32 100 tonnes d'avocats pour un montant de 105 millions de dollars contre seulement 32 tonnes en 2011. Ce nouveau marché pourrait permettre à la Tanzanie de diversifier ses débouchés au-delà du marché européen où la concurrence provient des pays d'Amérique latine. La Tanzanie, quatrième exportateur africain d'avocats, produit environ 7 000 tonnes de ce fruit par an. Pour terminer, le gouvernement ivoirien a accordé à Iron Ridge Resources un permis d'exploration couvrant une superficie de 397 km² pour le projet aurifère Zaranou. L'agence Ecofin qui révèle cette information écrit que la compagnie a également obtenu une prolongation de 2 mois de la période exclusive convenue avec les vendeurs du projet Geoservices Côte d'Ivoire et Atlas Resources. Iron Ridge a aussi des projets de lithium au Ghana et des projets d'or au Tchad.
Présent les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors la finale de la CAN des moins de 17 ans, Tanzanie 2019, opposera la Guinée au Cameroun.
Et oui, dans la première demi-finale disputée ce soir, le Sili National, la Cadet, est venu à bout du Nigeria à l'issue des tirs au but, 10 tirs ici contre 9. Le score était de 0-0 à la fin du temps réglementaire, 0-0 également à la fin du temps réglementaire de la deuxième demi-finale. Entre le Cameroun et l'Angola, c'est aussi au tir au but que les Lionceaux indomptables ont pris le dessus sur les Angolais avec 4 pénaltys réussis contre 2.
Et la RDC a été disqualifiée dans les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Ainsi en a décidé la CAF qui reproche au Léopard Espoir l'éligibilité du défenseur Arsène Zola. Le joueur du type puissant Mazembe avait fait l'objet d'une plainte de la Fédération Royale Marocaine de Football à l'issue de leur double confrontation pour inéligibilité. Il est né le 23 février 1996, ce qui est contraire au règlement de la compétition. Les joueurs devant être nés après le 1er janvier 1997. Conséquence, le Maroc se qualifie pour le tour suivant et affrontera le Mali pour une place en phase finale en Égypte. Le dernier tour des qualifications est prévu en aller le 5 juin et en retour 4 jours plus tard.
Il n'y aura plus de champagne alcoolisé pour le vainqueur de la Coupe d'Angleterre.
Oui, les équipes victorieuses recevront un champagne non alcoolisé pour leur célébration. L'annonce a été faite par la Fédération anglaise de football qui dit vouloir respecter les joueurs et les communautés qui peuvent être interdits de consommer de l'alcool ainsi que les joueurs âgés de moins de 18 ans. La finale de la Coupe d'Angleterre se jouera le samedi 18 mai à Wembley et opposera Watford à Manchester City. La FA Cup disputée pour la première fois lors de la saison 1871-1872 est la plus vieille compétition nationale du monde du football.
On termine avec la NBA, basketball américain. Toronto balaye Orlando et va en demi-finale.
Oui, les Raptors ont écrasé les Orlando Magic 115-96, décrochant ainsi leur billet pour les demi-finales de la conférence Est. Ils affronteront les Philadelphia Sixers du Camerounais Joel Embiid en demi. Toujours à l'Est, les Milwaukee Bucks disputeront face aux Boston Celtics les demi-finales des playoffs pour la première fois depuis 18 ans, après leur quatrième victoire en 4 matchs face aux Detroit Pistons, 127-104. À l'Ouest, grâce à un incroyable panier à 3 points marqués à la dernière seconde, Damien Lillard a qualifié sa franchise de Portland pour les demi. De leur côté, les Utah Jazz se sont relancés en dominant les Houston Rockets 107-91.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge et Abdourahmane Dia en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
En Algérie, les manifestants ne décollèrent pas. La démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril, après 20 ans de pouvoir, et la chute de plusieurs caciques du régime n'ont pas mis fin aux protestations. En effet, sous pression, les autorités ont lancé une série d'enquêtes sur des faits de corruption et de dilapidation des deniers publics. Pour une analyse, Morgane Guériec a joint Dénia de la Rive, journaliste spécialiste de l'Algérie.
On va donner quelques têtes en pâture, entre guillemets, de chefs politiques, d'anciens magistrats, d'anciens ministres, etc., ou d'hommes d'affaires. Mais ce sont des têtes choisies.
Que veulent les manifestants aujourd'hui?
C'est le départ de ce qu'ils appellent la clique des militaires, qui sont présents et qui justifient leur pouvoir parce qu'ils ont fait la guerre d'indépendance. Ils représentent un passé qui n'existe plus. Alors bien sûr, on n'oublie pas l'histoire, mais ces gens-là, à leurs yeux, se sont grassement nourris depuis qu'ils sont au pouvoir. Et aujourd'hui, ils veulent des vraies solutions politiques et non plus un État militaire dirigé par des militaires. Une vraie démocratie en réalité.
La justice a lancé une série d'enquêtes sur des faits de corruption et de dilapidation des deniers publics. Plusieurs hommes d'affaires ont été placés en détention. D'après vous, ces mesures pourraient-elles apaiser les protestataires ?
Non, pas vraiment. Sur le coup, peut-être. Mais là, comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des amis de M. Gaïd Salah qui ne sont pas mis en examen alors qu'on s'est délibérément qu'ils se sont servis dans les caisses. C'est colmater les brèches, mais ça ne va pas résoudre le problème. Le problème, c'est qu'il faut vraiment purger toutes ces personnes qui se sont nourries dans les caisses depuis toutes ces décennies et organiser de réelles élections démocratiques, alors, sans bourrage d'urne, comme ils ont l'habitude de faire.
L'élection présidentielle est prévue pour le 4 juillet. Le pays est-il prêt?
Je pense que la population est prête. Elle est prête depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'elle attend ça. Ceux qui sont au pouvoir essayent de retarder cette échéance le plus loin possible pour pouvoir s'organiser afin de garder les rênes. La population n'est pas dupe parce que ce sont des stratégies qu'ils utilisent maintenant depuis très longtemps et les Algériens les connaissent par cœur. Donc là, j'espère vraiment qu'on aura des réelles élections parce que c'est tout simplement ce que les Algériens attendent depuis très longtemps et je pense que la tension est à son comble. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des débordements aux prochaines manifestations. Jusque-là, ça s'est très bien passé. Malheureusement, la patience a ses limites.
Les manifestants sont d'accord sur cette date du 4 juillet?
Pour la plupart, oui. Maintenant, c'est sur les conditions. Il faut qu'elles soient organisées de manière claire, sans bourrage d'urne, comme je le disais tout à l'heure.
C'était notre consoeur Dénia de la Rive. Elle était jointe à Paris.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, dans ce Washington Forum, coup de projecteur sur l'Afrique du Sud. L'élection du premier président noir, Nelson Mandela, en avril 1994, consacrait la fin de l'apartheid. Elle avait suscité d'immenses espoirs, mais 25 ans après, nombre de citoyens sont déçus. Insécurité, pauvreté, inégalité, où en est la nation arc-en-ciel? Qu'en est-il de l'héritage de Nelson Mandela? Quelles sont désormais les attentes des Sud-Africains en vue des élections qui arrivent le 8 mai? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Burkina Faso, les avocats ont suspendu pour 96 heures toute participation aux audiences judiciaires sur l'ensemble du territoire. Ils entendent protester ainsi contre ce qu'ils qualifient de dysfonctionnement sérieux dans l'appareil judiciaire. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Une semaine sans participation à une audience judiciaire sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'une des décisions prises par l'Ordre des avocats pour tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de ce qu'ils considèrent comme un grave dysfonctionnement de la justice au Burkina. Maître Paulin Salambéré est le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina.
Et voyez-vous, depuis le mois d'octobre, nous avons constaté un dysfonctionnement, notamment ce qui concerne les activités en matière correctionnelle. Les personnes qui sont en détention ne sont plus jugées depuis le mois d'octobre. Celles qui sont en détention et dont les dossiers sont en instruction ne peuvent être entendues. Les personnes placées en détention, le temps de recevoir jugement également pour des délits mineurs, sont toujours détenues 6 mois 7 mois sans pouvoir être entendu. Nous estimons que tout cela constitue une atteinte grave des libertés, parce que le principe c'est la liberté et l'exception la détention. Et à ce jour, nous avons des frères, des sœurs, des mères, des pères qui sont en détention, isolés. Nous pensons même qu'ils sont séquestrés.
Ces dysfonctionnements sont la conséquence de la grève menée par les gardes de sécurité pénitentiaire. Une grève qui paralyse le système judiciaire, empêchant notamment de transférer les détenus après les gardes à vue. Elle empêche aussi les inculpés d'être jugés. Également depuis, les familles ne peuvent plus rendre visite à leurs proches en prison. Une situation qui commence à lasser les Burkinabés.
Ce pays-là, il y a trop de grèves. Et je pense, les auxiliaires de la justice, ils doivent mettre l'eau dans leurs vins. S'asseoir, discuter, écouter. Et comme eux, ils sont habilités à écouter et trancher, c'est pourquoi j'invite les avocats à s'écouter d'abord, à regagner leur bureau et commencer à travailler.
Bon, je ne pense pas que ça avance le pays. Tu veux une chance pour mettre, aller quelque part, on dit il y a grève. Tu veux aller aux impôts ou bien dans la caisse, on dit il y a grève. Chacun lutte pour ses intérêts, mais il y en a trop des intérêts maintenant. Essayer de s'asseoir et puis s'entendre un peu, c'est là la solution.
Ce mouvement des avocats, selon le bâtonnier Paulin Salambéré, est mené dans l'intérêt des justiciables.
Que les gens se rassurent, ce n'est pas relativement au manque à gagner d'honoraires d'avocats, parce que le côté pénal ne constitue pas la source première des revenus des avocats. Il y a les aspects qui relèvent du commercial, du civil. Et si nous avons accepté de ce soir ces audiences, nous ne le faisons pas pour les avocats, nous le faisons pour le justiciable.
Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso. Une petite page d'agriculture en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, où lors des deux campagnes agricoles passées, le pays a atteint une production record de plus de 700 000 tonnes de coton par an. Les acteurs de la filière se fixent comme nouvel objectif la production d'1 million de tonnes pour la saison 2019-2020. Voici un reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Sur les 2 dernières années de campagne, grâce notamment à une pluviométrie favorable, le Mali est devenu le champion africain du coton, dont la culture fait vivre 4 millions de personnes. Pour ce forum, 1 million de cotonculteurs se sont réunis dans la capitale à l'appel de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali. À l'issue de leurs travaux, les producteurs s'engagent à produire 1 million de tonnes pour la campagne 2019-2020. Bakary Togola, président de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali.
Au 21 février, le chef d'État nous a appelé, le ministre de l'Agriculture, PDG et moi. Il a communiqué dehors du Mali que le Mali va faire 1 million de tonnes dans la campagne 2019-2020. J'ai dit, monsieur le président, si les conditions sont réunies, c'est même pas problème. L'engrais, la subvention de l'engrais continue, l'opération des tracteurs continue et un prix raisonnable pour le coton.
Lors de cette même rencontre qui a réuni 7 761 coopératives, le prix d'achat du coton graine a été fixé à 275 francs le kilogramme par l'État pour encourager les cotonculteurs à produire plus. La CMDT, qui est la compagnie malienne de développement du textile, s'engage de son côté à accompagner les producteurs pour relever ces défis. Le professeur Baba Berthe est le PDG de la CMDT.
C'est l'assurance que la CMDT jouera toute sa partition. Toute sa partition en termes d'encadrement, en termes d'achat, de transport du coton graine, d'égrainage, de classement et de vente sur le marché international.
L'autre défi à relever est l'égrenage. Les capacités de la CMDT étant limitées avec seulement 18 usines pour 640 000 tonnes. Pour atteindre leurs objectifs, les cotonculteurs demandent au gouvernement de construire de nouvelles usines. Réponse de Soumelou Boubey Maïga, Premier ministre.
Le gouvernement sera à vos côtés pour vous accompagner pour atteindre cet objectif-là. Parce que l'agriculture est au cœur de notre politique. parce qu'elle occupe 80% de notre population. Le coton lui-même, sa production occupe 16 cercles dans le Mali, 16 sur les 49 cercles. Donc ça veut dire que c'est une production majeure pour nous et nous ferons tout pour accroître nos efforts, notamment en matière de capacité de transformation, d'égrenage. C'est pourquoi normalement nous devons pouvoir réaliser un certain nombre d'usines pour permettre d'avoir les capacités d'égrenage des quantités qui seront produites.
Le coton fait vivre 4 millions de Maliens et contribue au produit intérieur brut à hauteur de 15%. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, après la publication la semaine dernière d'une version expurgée du rapport Mueller, certaines personnalités de l'opposition démocrate, dont des candidats à la présidence, ont lancé des appels en faveur de la destitution du président Donald Trump. Mais les démocrates semblent divisés sur un éventuel processus qui serait long et controversé. Plus de détails avec Jim Malone, correspondant national de La Voix de l'Amérique, et c'est un récit d'Arzuma Compaoré.
La sénatrice et candidate démocrate à la présidence, Elizabeth Warren, fait partie de ceux qui plaident pour la destitution du président Trump.
La sénatrice Elizabeth Warren, candidate démocrate.
Nous ne pouvons pas être une Amérique pour laquelle il est acceptable pour le président d'essayer de bloquer des enquêtes le concernant.
Pour le moment, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s'oppose à la destitution. Julie Pace, de l'agence Associated Press.
Elle estime que pour poursuivre la voie de la destitution, il faut non seulement disposer de preuves solides d'une infraction, mais également impliquer à la fois des démocrates et des républicains.
De nombreux démocrates restent divisés sur la question. Adam Schiff est un représentant démocrate.
Est-ce la meilleure chose pour le pays de se lancer dans une procédure de destitution? Parce que faire autrement enverrait le message que cette conduite est tolérable dans une fonction publique? Ou est-il dans l'intérêt du pays de ne pas engager une procédure de destitution qui, nous le savons, ne passera pas au Sénat parce que les dirigeants républicains ne feront pas leur devoir?
Même les démocrates qui soutiennent la destitution reconnaissent que le processus est long et politiquement risqué. Matt Dalek de l'université George Washington.
Au moment où la procédure de destitution débuterait, nous pourrions déjà être en 2020.
John Forcher est du Centre de politique bipartite.
Le plus important, c'est que le président voulait entendre dire qu'il n'y a pas eu de collusion.
Les démocrates se souviennent également de ce qui est arrivé avec le projet de destitution du président Bill Clinton en 1998. Clinton avait menti et a tenté de dissimuler sa liaison avec la stagiaire Monica Lewinsky, ce qui a entraîné sa mise en accusation par la Chambre. Il est toutefois resté en poste après avoir été acquitté dans un procès au Sénat. En 1974, le Congrès avait entamé une procédure de destitution du président Richard Nixon à la suite du scandale du Watergate. Nixon avait quitté ses fonctions lorsqu'il était devenu évident qu'il ne survivrait probablement pas à un procès de destitution devant le Sénat. Pour le moment en tout cas, même si les démocrates suspendent le projet de destitution de Trump, le rapport Mueller retiendra toute l'attention des candidats démocrates à la présidence tout au long du cycle électoral de 2020.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Georges Léonard Sagno. À la console, Jonas Cambus. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous.